Chapitre 24. Nous avons trouvé le message sur la voiture de Didi au deuxième étage du parking de l'aéroport Logan, coincé sous l'essuie-glace droit. Aucun de nous n'avait ouvert la bouche depuis que nous avions quitté l'avion, traversé le terminal, franchi la passerelle à ciel ouvert et parcouru le labyrinthe de passages piétons couverts qui est en période de travaux dessiné comme des galeries dans le parking central. Dehors, il faisait froid et pluvieux. Le temps était au diapason de notre humeur. J'étais préoccupée par mon père, des questions sur mon passé et, ah oui, la nécessité de passer prendre Bella chez le véto, ce qui était toujours compliqué en transport en commun. Didi et Bobby étaient certainement perdus dans des réflexions policières de haut vol, qui avait un jour kidnappé et assassiné Sifillette, par exemple. L'individu en était-il alors à son premier crime et, ah oui, comment coller tout le carnage sur le dos de mon défunt père? Ensuite, nous avons vu le message. Simple papier blanc. Encre noire épaisse, écriture manuscrite. Didi se décala immédiatement pour me boucher la vue. Mais les deux premières lignes étaient déjà inscrites au fer rouge dans mon esprit. « Rendez le médaillon, ou une autre fille mourra. » Il y avait encore du texte. En plus petites lettres, plein de mots après cette menace liminaire. Mais je ne pus pas les lire, des précisions, supposais-je, sur la manière exacte dont la police devait rendre le médaillon, ou sur la manière exacte dont une autre fille mourrait. Les deux, peut-être. « Merde, » dit Didi. « Ma voiture, comment il a su ?» Elle explora rapidement du regard le vaste espace de béton. À la recherche du messager, je la vis lancer des coups d'œil dans les coins et compris qu'elle cherchait d'éventuelles caméras de surveillance au cas où ils auraient de la chance. J'en cherchais à mon tour. Ça aurait été trop beau. Bobby se penchait déjà sur le capot de la voiture pour examiner de près le morceau de papier en prenant soin de ne rien toucher. « Il faut traiter ça comme une scène de crime, » dit-il sur un ton sec, tendu. « Sans blague. On est parti, quoi, 30, 31 heures? Ça laisse un sacré créneau pour déposer ça. »« Je sais, » psalmodia Didi aussi sèchement que lui. Elle me lança un regard par-dessus son épaule, l'air à nouveau furax. « Eh, celle-là, vous ne pouvez pas la coller sur le dos de mon père, » dis-je. « Annabelle, » dit-elle avec un regard noir. Le moment serait bien choisi pour grimper dans un taxi. Parfait. Je me demande combien de journalistes je peux trouver en chemin. Je suis sûre que ça leur plairait beaucoup d'apprendre ça. Vous n'oseriez pas. Vous allez rendre le médaillon? Primo, ça regarde la police. Deuxio, ça regarde la police. Qui a écrit ça? Est-ce qu'il a signé? Est-ce qu'il parle de moi? Je veux lire le message. Annabelle, prenez un taxi. Impossible. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de ma vie. Didi se mordit les lèvres. Elle retourna ostensiblement au message, toujours à sa place sur le pare-brise de sa voiture. Elle n'allait pas me laisser le voir. Elle n'allait pas me mettre au courant. Les forces de l'ordre sont un système. Un système qui se fiche de quelqu'un comme moi. Les secondes s'écoulèrent. Didi lisait. Bobby scrutait le visage de Didi avec une expression impénétrable. Ils étaient dans le jeu. J'étais en dehors, spectatrice. Même moi, j'ai mes limites. Je renonçais, fis volte-face. « Attendez !» dit Didi en lançant un regard à Bobby. « Accompagne-la. »« Eh, je n'ai pas besoin d'un babysitter. » Didi m'ignora et s'adressa à Bobby. « Je gère ça. Tu restes avec elle. »«
Il faut qu'on en discute, » dit-il posément.
« On le fera. »«
Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit de précipité. »«
Bobby !» !»«
Je suis sérieux, Didi. »
Tu es peut-être commandant, mais c'est moi l'ancien des forces spéciales.
Il frappa le message du doigt. Je connais ça. C'est des conneries. Tu ne vas pas faire ce que ça dit.
Didi me désigna d'un signe de tête. Plus tard, murmura-t-elle, ramène-la chez elle. Je réunis la cellule de crise. On discutera. Il fit la tête, le scepticisme se lisait dans son regard.
Plus tard, concéda-t-il à contre-cœur en se décollant de la Kronvik banalisée de Didi pour se diriger vers moi.
Je saisis l'occasion d'entrevoir le reste du message. Je ne revis que ces deux lignes. Rendez le médaillon ou une autre fille mourra. Bobby m'attrapa par le bras, m'entraîna. Je me laissai faire, mais seulement jusqu'à ce que nous soyons hors de portée de Didi.
« Qu'est-ce que ça dit ? » demandai-je.
« Rien. » Probablement juste une manœuvre pour se faire de la pub.
Le grand public n'est pas au courant pour le médaillon,
Les médias n'en ont jamais parlé.
Apparemment, le grand enquêteur lui-même n'avait pas encore fait le rapprochement. Il ralentit le pas, se reprit, continua son chemin.
Nous étions arrivés à l'ascenseur, il appuya sur le bouton d'appel avec plus de force que nécessaire.
« Bobby !» Montez dans l'ascenseur, Annabelle.
« J'ai le droit de savoir, ça me concerne !»«
Non, Annabelle, ça ne vous concerne pas. »«
Mon œil !»«
Annabelle !» dit-il alors que les portes de l'ascenseur se refermaient sur nous. « Le message ne parle même pas de vous. C'est Didi qu'il veut. »
Il me conduisit en silence chez le vétérinaire. Bella m'y accueillit avec un enthousiasme débordant. Elle virevolta, sauta, me couvrit le visage de baisers. Je l'enlaçai plus longtemps que je n'en avais l'intention, enfouissant mon visage dans l'épaisse crinière de son cou, heureuse de sa chaleur, de son corps frétillant, de sa joie délirante. Puis cette traîtresse se détourna et sauta sur Bobby avec la même frénésie. La loyauté n'est pas de ce monde. Bella se calma quand je la fis monter dans la voiture de Bobby. Elle appréciait comme tous les chiens une bonne balade en voiture et se précipita à la portière pour orner la vitre d'empreintes de truffes. Elle avait déjà laissé une traînée de fins poils blancs sur toute la banquette fraîchement nettoyée. Cela me réconforta. Arrivé à mon immeuble, Bobby se gara en stationnement interdit et fit le tour jusqu'à la portière passager. J'ouvris moi-même ma portière, histoire de marquer le coup. Il tourna simplement son attention vers Bella qui, naturellement, sauta de la voiture et se mit à caracoler autour de lui, indifférente à l'averse.
« Toujours un plaisir d'aider une demoiselle, » dit-il en lui tapotant la tête.
J'aurais voulu le frapper, le boxer, lui lancer des coups de pied et hurler comme si tout était de sa faute. La violence de mes propres pensées me ramena à la réalité. Je me dirigeais, chancelante, vers l'immeuble en préparant mes clés avec des doigts tremblants. Bella grimpa le perron comme une flèche, je la suivis plus lentement, essayant de me ressaisir tandis que, comme un automate, j'ouvrais les portes, je vérifiais le courrier, je refermais bien toutes les portes derrière moi. J'avais une sensation nauséeuse dans l'estomac, une envie puérile de tout arrêter et de pleurer. Ou mieux encore, de préparer 5 valises. Mon père s'était fait passer pour un agent du FBI et avait interrogé une jeune victime d'enlèvement 2 ans avant que quiconque m'ait jamais suivi. Ma meilleure amie avait été tuée à ma place. Quelqu'un, 25 ans plus tard, exigeait maintenant la restitution de mon médaillon. J'avais mal à la tête, ou peut-être au cœur. Une fois dans mon appartement, Bobby fit une tournée d'inspection. Ses mouvements fluides auraient dû me réconforter. Au contraire, le besoin qu'il avait de sécuriser mon appartement ne fit qu'accroître mon angoisse lorsque je m'avisais que, à l'époque, c'était exactement ce que mon père aurait fait. Lorsque Bobby eut fini, il m'adressa un bref signe de tête, me donnant la permission de rentrer dans mon propre domicile, et s'adossa au plan de travail de la cuisine. Il me regarda accomplir les gestes rituels du retour à la maison, poser le courrier, laisser mon sac dans ma chambre, remplir un bol d'eau pour Bella. L'écran digital de mon répondeur annonçait 6 messages, nombre inhabituel pour mon petit monde tranquille. Instinctivement, je m'en éloignais, j'écouterai les messages plus tard, quand Bobby ne serait plus là.
« Bon, » dit-il.
« Bon, » rétorquai-je.
« Des projets pour la soirée ?»«
Travail. »«
Couture ?»«
Starbucks. »
Il tiqua. « Ce soir ?»«
Les gens veulent leur kawa tous les jours. Pourquoi ? Je suis assignée à résidence ?»
« Au vu des derniers événements, une prudence raisonnable serait tout indiquée, » répondit-il posément.
C'en fut trop pour moi. Je relevai le menton et tranchai dans le vif. « Ce n'est pas mon père qui a fait ça. Quoi que vous en pensiez, mon père n'était pas comme ça. Et le message le prouve, on n'a jamais vu les morts laisser de message. »«
Le message ne vous regarde pas, Annabelle. Il regarde la police et il se peut qu'il n'ait aucun rapport avec l'affaire. »«
Ok, mon père s'est fait passer pour un agent du FBI et a rendu visite à Catherine après son agression. Peut-être qu'en tant que père, il voulait vérifier par lui-même quel genre de monstre s'attaque à des petites filles. » Peut-être qu'en tant qu'universitaire, il lui semblait que c'était la meilleure méthode pour se renseigner. Je sais qu'il y a une explication. J'étais sur la défensive. Mes théories semblaient grotesques au moment même où je les exposais. Mais c'était plus fort que moi. Après toute une vie à batailler contre mon père, à l'accuser d'être dominateur et manipulateur, je devenais tout à coup sa plus fervente avocate. Que je n'ai pas eu confiance en mon père était une chose, mais je me serais fait piétiner plutôt que de laisser quelqu'un d'autre s'en prendre à lui. Bobby semblait réellement réfléchir à ce que j'avais dit.
« D'accord, Annabelle.
Donnez-moi une explication. Essayez quelque chose pour voir si ça colle. Je suis tout prêt à écouter sans idée préconçue. On n'en est pas à le clouer au pilori.
Il n'était même pas dans la région quand Dory a disparu, dis-je brusquement. Nous étions déjà en Floride.
C'est ce que vous croyez, dit-il.
C'est ce que je sais. Mon père ne nous a pas quittés une seule fois après notre installation en Floride.
Le mensonge était sorti tout seul. Je songeais amèrement que mon père aurait été fier. 2 semaines après notre arrivée en Floride, je me réveille en pleine nuit. Je crie. Je veux mon père. Je l'appelle désespérément. C'est ma mère qui s'approche.
Chut, chérie. Chut, ton père sera bientôt à la maison. Il fallait seulement qu'il rentre régler certains détails. Chut, chérie, tout va bien.
Le mensonge comme seconde nature. La voix monocorde de Bobby me ramena implacablement au présent. Annabelle, où sont les meubles de votre famille? Toute votre famille a disparu en plein après-midi. Que sont devenues vos affaires?
Un camion de déménagement est venu et a tout emporté.
Pardon?
J'ai parlé à Madame Petracelli.
Vous avez quoi?
Je me suis cachée dans un coin et j'ai fermé les yeux, rétorquai-je, ma colère remontant à son maximum. Qu'est-ce que vous croyez que j'allais faire? Attendre que vous et Didi me serviez ma vie sur un plateau d'argent? Pitié. Vous êtes des flics. Vous n'en avez rien à foutre de moi.
Il fit un pas. L'expression de son visage n'était plus impassible. Ses yeux avaient pris des reflets gris sombres, orageux. Je songeais que j'aurais dû avoir peur. Au lieu de cela, je me sentais surexcitée. Je voulais résister, me battre, me déchaîner. Tout plutôt que ce sentiment d'impuissance.
« Qu'avez-vous dit à Madame Petracelli ? » demanda-t-il.
« Voyons, Bobby, le parodiai-je avec une voix de fausset. Vous ne me faites pas confiance ? On n'est pas tous dans la même équipe ?
Qu'est-ce que vous avez dit à Madame Petracelli ?
Je ne lui ai rien dit, abruti. Qu'est-ce que vous croyez que j'allais faire ? Débarquer chez une femme que je n'ai pas vue depuis 25 ans et lui annoncer que la police avait retrouvé le corps de sa fille disparue. Pitié, je ne suis pas cruelle à ce point.
Je fis moi-même un pas vers lui, pointai un doigt sur son torse. Ça me donnait l'impression d'être une dure, alors même que ses yeux prenaient une teinte granite plus sombre.
Elle m'a dit que des déménageurs étaient venus vider notre maison. Mon père avait sans doute organisé ça par téléphone. Il a tout fait mettre au garde-meuble. Peut-être qu'il a pensé que la police finirait par tout démêler et qu'on pourrait rentrer chez nous, reprendre là où on en était. Il croyait beaucoup à l'utilité de prévoir l'avenir.
Annabelle, il n'y a pas de transaction immobilière, pas de garde-meuble, aucune trace d'un dénommé Russell Granger. À mon tour d'être prise au dépourvu.
Mais quoi, Annabelle? Dites-moi ce qui s'est passé à l'automne 82. Donnez-moi quelque chose à croire.
Je ne pouvais pas. Je ne savais pas. Je ne comprenais pas. Comment pouvait-il n'y avoir aucune trace de Russell Granger? Arlington était censé être ma vraie vie. À Arlington, en 82, au moins, j'avais vécu. Bobby prit mes mains entre les siennes. C'est ainsi que je m'aperçus que je m'étais mise à trembler, à vaciller sur mes jambes. Sur mon tapis, Bella émit un gémissement inquiet. Je ne pouvais pas lui répondre, pas lui parler. Je repensais à mon père, à ses chuchotements au milieu de la nuit, à ces choses que je ne voulais pas savoir, à ces vérités qui seraient trop difficiles à supporter. Oh, mon Dieu, que s'était-il passé à l'automne 82? Oh, Dory, qu'avions-nous fait? Annabelle, ordonna doucement Bobby. Mettez votre tête entre vos genoux. Inspirez. Vous êtes en hyperventilation. Je fis ce qu'il disait, me pliai en deux, regardai mon parquet plein de marques en respirant péniblement. Lorsque je me redressai, les bras de Bobby m'enlacèrent et je tombai tout naturellement dans son étreinte. Je humais son après-rasage, verveine et épices qui me chatouillaient le nez. Je sentais ses bras, chauds et solides autour de mes épaules. J'entendais les battements de son cœur, réguliers et rythmés dans mon oreille, et je m'accrochais à lui comme une enfant, gênée, bouleversée, consciente qu'il fallait que je me reprenne et pourtant follement avide du refuge de ses bras. Si Russell Granger n'avait jamais existé, qu'en était-il d'Annabelle? Et pourquoi, oh,
Pourquoi avais-je cru que ce déménagement en Floride était le tout premier mensonge de mon père ?
Chut, murmurait Bobby à mon oreille. Chut.
Ses lèvres effleurèrent le sommet de mes cheveux, un petit baiser inconscient. Cela ne me suffisait pas. Je levai la tête et le trouvai. Le premier contact fut électrique. Des lèvres douces, des joues râpeuses, l'odeur d'un homme, la pression de ses lèvres contre les miennes, des sensations que je m'autorisais rarement à connaître, des besoins que je m'autorisais rarement à ressentir. J'ouvris la bouche pour attirer sa langue, je voulais le sentir, le toucher, le goûter. J'avais besoin de ça, je voulais croire en ça. Je voulais tout ressentir, sauf la peur tapie dans un recoin de mon esprit. S'il pouvait seulement me tenir dans ses bras, alors peut-être que ce moment durerait, que le reste s'évanouirait, que je n'aurais pas à avoir peur, que je n'aurais pas à me sentir seule, à entendre ces voix qui enflaient à présent dans un coin de ma tête. « Roger, je t'en prie, n'y va pas. Roger, je te supplie, ne fais pas ça. » L'instant d'après, Bobby me repoussait et je reculais en titubant. Nous battîmes chacun en retraite à un bout de la minuscule cuisine, le souffle court, le regard fuyant. Bella se leva maladroitement de son tapis. Elle se serra contre moi avec inquiétude. Je me penchai et me mis à lisser consciencieusement le pelage autour de sa gueule. Les minutes s'écoulèrent. J'en profitai pour discipliner mes traits, retrouver mon aplomb. Si Bobby avait fait ne serait-ce qu'un pas vers moi, je l'aurais rejoint. Mais sitôt que nous aurions eu fini, je me serais éloigné. Je me serais caché derrière la façade lisse que j'avais perfectionnée au fil des ans. Et je réalisais une nouvelle fois que ma mère n'avait pas été la seule victime de la guerre qu'avait menée mon père. Il m'avait pris quelque chose à moi aussi, et je ne savais pas comment le récupérer. « Et ma mère ?» demandai-je tout à coup. « Leslie Ann Granger ? Peut-être que pour une raison quelconque, mes parents avaient tout mis à son nom ?»«
Annabelle, j'ai fait des recherches sur les noms de vos deux parents. Rien. »
Nous existions, insistai-je faiblement en caressant le pelage de Bella, le poids rassurant de sa tête entre mes mains. Nous jouions avec les voisins, nous avions une vie sociale, un rôle dans le quartier. J'allais à l'école, mon père avait un travail, ma mère était à l'association de parents d'élèves. C'est réel tout ça, je m'en souviens. Arlington n'était pas le fruit de mon imagination.
Et avant Arlington ?
Je ne sais pas. Je ne me souviens pas d'un avant.
Une question à poser au voisin.
Oui, j'imagine. Il s'était redressé, semblait se ressaisir.
Je ne peux rien vous promettre sur le cours que va prendre cette enquête, dit-il tout à coup. Six cadavres, c'est six cadavres. Nous avons le devoir de poser toutes les questions, de creuser toutes les pistes. Cette affaire vit déjà de sa propre vie.
Je sais.
Peut-être que dans l'immédiat, vous devriez faire profil bas.
Je ne pus m'empêcher de sourire, mais ce fut un pauvre sourire. Bobby, je vis sous un nom d'emprunt, je n'ai pas d'amis, je ne parle jamais à mes voisins et je n'appartiens à aucune association. Ce qui ressemble le plus à une relation durable dans ma vie, c'est le livreur du PS. Franchement, si je tombe beaucoup plus bas dans l'échelle sociale, je vais me transformer en amibe.
Je n'aime pas que vous travailliez le soir.
Continua Bobby comme si je n'avais rien dit. Ses yeux se plissèrent, son regard passa de moi à Bella, puis revint sur moi.
Ou que vous couriez la nuit.
Je secouai la tête. Le paroxysme de la crise s'éloignait, je reprenais du poil de la bête. Je suis une adulte, Bobby. Je ne veux plus me cacher.
Annabelle,
je comprends que vous deviez faire votre boulot, Bobby. Vous pourriez aussi comprendre que je vais faire le mien. Clairement, il n'était pas content. Mais il faut lui accorder qu'il arrêta de discuter. Bella eut l'air de percevoir la baisse de tension. Elle s'approcha de Bobby et pressa sans vergogne sa truffe contre la paume de sa main.
« Il faut que j'y aille, » dit Bobby sans bouger pour autant.
« Réunion de la cellule sur le message ?» Il refusa de mordre à l'hameçon. Je suivis donc son exemple et laissai filer. « Il faut aussi que je me prépare pour le boulot, » dis-je, en espérant que ma voix ne trahirait pas la fatigue que je ressentais.
« Annabelle ?»
Bobby ?
Je ne peux pas. Nous deux. Il y a des règles. Je ne peux pas.
Je ne vous le demande pas.
Il se renfrogna soudain.
Je sais, et ça m'énerve.
Je souris, et cette fois-ci, c'était un sourire plus doux, sincère, un vrai pas en avant pour moi. Je m'approchai de lui, posai une main sur sa joue. Sentis le début de barbe râpeux d'une fin d'après-midi, la ligne dure de sa mâchoire. Nous n'étions qu'à quelques centimètres l'un de l'autre. Je pouvais sentir la chaleur de son corps, mais rien de plus. Il ressemblait à une promesse, et l'espace d'un instant, je m'autorisais à croire que de telles choses étaient possibles. Que j'avais bel et bien un avenir, que la femme qu'Annabelle Granger était devenue avait une chance de bonheur dans la vie.
« Vous aimez les barbecues ?»
murmurai-je. Je sentis ses lèvres sourler contre la paume de ma main.
J'étais le roi des hamburgers à une époque.
Ça vous arrive de rêver à des clôtures de piquet blanc, deux enfants virgule deux, voire un chien blanc totalement allumé?
Dans mes rêves, il y a généralement un sous-sol aménagé, une table de billard et un écran plasma.
Ça marche.
Je retirai ma main, soupirai d'avoir perdu le contact de la froide réalité qui s'installait entre nous.
On ne sait jamais,
dis-je avec désinvolture.
On ne sait jamais.
Il descendit les escaliers. La plus affectée fut Bella, qui poussa un gémissement pitoyable lorsque je verrouillai la porte derrière lui. Mon téléphone sonna, je décrochai. Et une voix d'homme murmura « Annabelle ».